Bonjour, au micro, Idrissa Sinoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé hier sa profonde préoccupation au sujet de la crise politique au Mali et il a appelé toutes les parties à suivre sans délai les recommandations de la CEDEAO. Pour sa part, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a constitué hier un cabinet restreint conformément aux recommandations d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a menacé de sanctions les récalcitrants. Nous y reviendrons plus en détail avec Bagassi Koura et notre correspondant Kassim Traoré. Au Burundi, selon un arrêt parvenu à l'AFP ce lundi, la Cour suprême a cassé l'arrêt qui condamnait à 32 ans de prison Germain Rukuki, un militant des droits de l'homme arrêté en 2017 sur fond de graves crises politiques. Pour Anchère Nicoya Guizet, président en exil de l'ONG de défense des droits fondamentaux ITK, ce jugement est, je cite, un signe d'ouverture et un bon début. Reste maintenant à savoir si cela va continuer. Fin de citation. C'est une allusion à Évariste Ndayishimiye, qui a été élu président du Burundi en juin, succédant à Pierre Nkurunziza, décédé soudainement le 8 juin. Le panel d'experts indépendants, dirigé par l'ancienne présidente irlandaise, Mary Robinson, a validé ce lundi la disculpation totale du président de la Banque africaine de développement, Aki Noemi Adesina, d'accusation de mauvaise gestion par le comité d'éthique interne, selon son rapport dont l'AFP a obtenu copie. Au Tchad, l'ex-maire de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, a été arrêté et écroué à la maison d'arrêt de la capitale qu'il dirigeait encore fin juin. C'est suite, selon le premier substitut du procureur cité par l'AFP, à une plainte déposée par l'inspection générale du contrôle d'État pour détournement, abus de fonction et corruption en lien avec le marché public. En Afrique du Sud, la porte-parole du président Cyril Ramaphosa, soupçonné de corruption dans un contrat d'équipement de protection contre le Covid-19, a été mise en disponibilité, a annoncé la présidence hier. Son époux dirige une entreprise qui aurait, selon un journal local, décroché illégalement un contrat de fourniture d'équipement de protection sanitaire. L'Afrique du Sud est le pays du continent le plus touché par le Covid-19, avec plus de 445 000 cas, dont 6 769 décès. Donc la porte-parole a été mise en disponibilité. Ici aux États-Unis, la majorité républicaine au Sénat a présenté hier sa version d'un plan de soutien de 1 000 milliards de dollars à l'économie américaine face à la pandémie de coronavirus. La présentation des grandes lignes de ce plan, élaboré en concertation avec la Maison-Blanche, ouvre la voie à des négociations avec les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants, alors que des mesures exceptionnelles d'indemnisation dont bénéficient des millions d'Américains au chômage doivent expirer en fin de semaine. Les maires de six villes américaines, dont Portland, dans l'Oregon, ont demandé hier au Congrès de stopper le déploiement d'agents fédéraux demandé par le président Donald Trump dans leur ville, déclarant que la présence de ces agents avait exacerbé les tensions lors des manifestations contre le racisme survenues dans tout le pays. Le président Donald Trump estime, lui, ces déploiements nécessaires pour faire respecter la loi et l'ordre, un thème de sa campagne de réélection en novembre prochain. Ici à Washington, celui qu'on a appelé la conscience du Congrès, le parlementaire africain-américain John Lewis, icône de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, décédé d'un cancer à l'âge de 80 ans ce mois-ci, a reçu un hommage solennel de ses pairs sous la coupole du Capitole, un honneur réservé aux plus hautes personnalités américaines. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La suite de nos informations. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a menacé hier de sanctions ceux qui s'opposeront à son plan de sortie de crise au Mali. Ce plan prévoit le maintien au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais prône la constitution rapide d'un gouvernement d'union nationale et des élections législatives partielles. Bagassi Koura.
Les 15 chefs d'État de la CEDEAO, à l'issue hier d'un sommet virtuel, ont prévu un régime de sanctions contre ceux qui poseront des actes contraires au processus de normalisation à mettre en œuvre avant vendredi, a déclaré à l'issue de leur discussion le Nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de l'organisation régionale pour sortir de la crise, dont l'élément déclencheur est une décision controversée de la Cour constitutionnelle qui a révisé partiellement les résultats des législatives de mars-avril. Cette demande a inclus la démission immédiate des 31 députés dont l'élection est contestée, y compris le président du Parlement, Moussa Tembiné, a indiqué le président de la CEDEAO. La majorité du président Keïta devra, je cite, « tout mettre en œuvre pour obtenir cette démission qui ouvrira la voie à des élections partielles ». Fin de citation. En attendant, le Parlement pourra fonctionner avec les 116 députés restants, a dit Issoufou. Le sommet préconise également une recomposition rapide de la Cour constitutionnelle, dont les 3 membres choisis par le Parlement seront désignés après la démission des 31 députés contestés. Le sommet virtuel a aussi recommandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Selon Issoufou, le sommet a appuyé les recommandations de la médiation menée sous l'égide de l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, puis par 5 chefs d'État venus vendredi dernier à Bamako, sans pouvoir convaincre les contestataires.
Le Sénégal, la Guinée et le Mali ont rendu hommage hier à l'un des pionniers de la presse privée en Afrique de l'Ouest, conseiller influent de plusieurs chefs d'État. Babacar Touré est décédé dimanche à Dakar à l'âge de 69 ans. Abdourahmane Dia.
Le président sénégalais Macky Sall a rendu hommage sur Twitter à un journaliste chevronné et pionnier de l'entreprise de presse et de la formation des hommes de médias. Il aura été de tous les combats pour la liberté et la démocratie, a-t-il estimé. Son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta a également salué sur Twitter un professionnel émérite, une référence pour des générations entières de journalistes qui prendra toute sa place dans l'histoire de la presse africaine. Quant au président guinéen Alpha Condé, qui avait côtoyé M. Touré quand il était opposant, il s'est fait représenter par son ambassadeur au Sénégal lors de la levée de corps du journaliste lundi matin à Dakar. Babacar Touré est l'un des principaux fondateurs en 1985 du groupe de presse Sud Communication qui a innové en créant au Sénégal un quotidien, la première radio privée du Sénégal et également une école de journalisme et de communication et en développant un réseau de correspondants dans toute l'Afrique de l'Ouest, en France et aux États-Unis. Le groupe a également détenu une chaîne de télévision basée en France, faute d'autorisation au Sénégal qui a arrêté d'émettre au début des années 2000.
La pandémie de coronavirus qui a fait plus de 650 000 morts pour plus de 16 millions de cas continue de se répandre dans le monde, avec 4 230 000 millions de cas et près de 150 000 morts. Les États-Unis restent le pays le plus touché. La Chine a fait état lundi de 61 nouveaux malades en 24 heures, Nathalie Barge.
Aux États-Unis, qui enregistrent 4 230 000 cas et près de 150 000 morts, un potentiel vaccin entre dans sa dernière phase d'essai clinique. Au Canada, la majorité des nouveaux cas sont des personnes de moins de 40 ans. Le Brésil a recensé dimanche 25 000 cas supplémentaires pour un total de 2,4 millions et 87 000 morts. La Belgique resserre les restrictions sur les événements publics. L'Allemagne va imposer des tests aux voyageurs revenant de régions à risque. Londres soumet à l'isolement les passagers en provenance d'Espagne. Certaines villes de France ferment les plages et parcs la nuit et imposent le port du masque. En Arabie Saoudite, seuls 10 000 Saoudiens citoyens et résidents étrangers sont autorisés à effectuer le pèlerinage de la Mecque qui débute mercredi. À l'approche de l'Aïd al-Adha, le Maroc limite les déplacements entre 8 grandes villes. L'Algérie a décidé de reconduire les mesures de confinement et le Kenya a interdit la vente d'alcool dans les restaurants et prolongé d'un mois le couvre-feu.
La Minute Éco, John Lyndon.
Le groupe des télécoms Orange a lancé en fin de semaine dernière une banque mobile OBA, entendez Orange Bank Africa, qui siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle banque 100% numérique, filiale d'Orange à 75% et de l'assureur ivoirien NSIA à 25%, proposera aux clients des microcrédits à partir des 5000 francs CFA et un livret d'épargne rémunéré avec un dépôt minimum de 1000 francs CFA délivré en quelques secondes à partir d'un téléphone portable, selon le directeur général d'OBA, Jean-Louis Menant Kwame. OBA prévoit de s'implanter dès 2021 au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso et vise 10 millions de clients en 5 ans. La centrale solaire la plus puissante au monde sera construite à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, par le consortium formé par le français EDF et le chinois Jinko Power Technology. La future centrale, d'une capacité de 2 gigawatts, alimentera l'équivalent de 160 000 foyers chaque année. Le contrat a été attribué pour une mise en service en 2022 dans la région d'Al-Dhafra, au sud de la ville d'Abu Dhabi. La majorité des entreprises aux États-Unis s'attendent à maintenir au moins en partie le télétravail une fois la crise sanitaire terminée. Selon l'Association nationale pour l'économie des entreprises, plus de 80% d'entreprises indiquent qu'elles maintiendront un certain degré de télétravail après la crise du COVID-19. Elles affirment en effet que l'expérience avec la pandémie conduira à l'avenir à des modalités d'embauche et de travail plus flexibles.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le championnat sud-africain de football a annoncé que la compétition reprendra le 11 août pour se clôturer le 5 septembre. Les 54 matchs restants du championnat seront joués à huis clos dans la province du Gauteng, dont les principales villes sont Johannesburg et Pretoria. Le Gauteng est pourtant l'épicentre de la pandémie en Afrique du Sud. Mais la Fédération de football affirme que les protocoles sanitaires garantissent qu'il n'y aura qu'un pour cent de chances que quelqu'un soit infecté. Le championnat marocain a été le premier grand championnat africain à reprendre dans le contexte de la pandémie, avec 2 matchs joués hier. Il sera suivi par 2 autres ligues majeures, la Ligue 1 tunisienne le 2 août et la Première Ligue égyptienne le 6 août. En Tanzanie, le club populaire Young African Sport Club a annoncé le limogeage immédiat de son entraîneur belge Luc Heymel. La formation tanzanienne lui reproche ses commentaires racistes envers les supporters de l'équipe après le nul 1-1 contre Mtibwa Sugar la semaine dernière. Dans un enregistrement qui a circulé sur les réseaux sociaux après le match, Heymel a dit ceci, je cite, « Ses fans ne connaissent rien au football, on dirait des singes ou des chiens quand ils hurlent. » Selon la presse locale, le technicien de 60 ans s'est excusé pour ses propos, assurant au journal sportif Mwana Sporti qu'il n'était pas de bonne humeur, mais qu'il n'est pas raciste. Le championnat de Tanzanie s'est terminé dimanche avec Nyanga à la 2e place derrière le champion Simba Sport Club. Et puis, le champion d'Afrique des moins de 17 ans, le Camerounais Steve Mvoué, s'est engagé avec le Toulouse FC, signant son premier contrat professionnel. Le jeune de 18 ans a beaucoup brillé lors de la CAN de sa catégorie Tanzanie 2019, remportant le trophée avec son pays, mais aussi en finissant meilleur joueur du tournoi. En juin 2019, Steve Mvoué a disputé ses premières minutes avec la sélection A des Lions Indomptables face à la Zambie. Il a ensuite pris part au mondial des moins de 17 ans au Brésil. Formé à l'Azur Star de Yaoundé, la pépite camerounaise est le fils de Régine Mvoué, première capitaine de l'équipe nationale féminine du Cameroun. Toujours en ce qui concerne les probables transferts, la nouvelle équipe dirigeante de Toulouse maintient le bon de sortie accordé par la précédente direction à l'international ivoirien Max-Alain Gradel. Après la descente du club en Ligue 2, Max-Alain Gradel a un accord avec le club pour partir. « Je respecterai l'engagement et la parole du club.
a déclaré Damien Komoli, nouveau président de Toulouse. Pour ce qui est de l'autre Ivoirien du TFC, Ibrahim Sangaré, je cite, « Il y a beaucoup de rumeurs, mais pas encore d'offres, mais elles vont venir, on avisera », a laissé entendre Damien Komoli.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, comme recommandé par le sommet extraordinaire de la CDAO, un gouvernement restreint de 6 membres a été mis en place. Il s'agit de ceux en charge de la défense, de l'administration territoriale, de la justice, des affaires étrangères, de la sécurité intérieure et des finances. Ils doivent faire face aux nombreux défis auxquels fait face le pays. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Lors du sommet extraordinaire sur la crise sociopolitique au Mali, les chefs d'État de la CDAO ont décidé de soutenir toutes les propositions faites par la médiation de la CDAO, conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, Mahamadou Issoufou, président du Niger, président en exercice de la CDAO.
La démission immédiate de 31 députés dont l'élection est contestée, y compris le président du Parlement. En attendant ces élections partielles, le Parlement pourra fonctionner avec les 116 députés restants. Il est prévu une recomposition rapide de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions constitutionnelles du Mali. En cas de difficulté de nomination des membres de la Cour constitutionnelle par les différentes instances, le président de la République utilisera l'article 50 de la Constitution pour nommer les 9 membres. Ensuite, il y a la mise en place rapide d'un gouvernement du même national. La tâche prioritaire de ce gouvernement du même national sera de mettre en œuvre toutes les réformes.
En plus des mesures relatives aux questions institutionnelles, d'autres mesures ont été prises.
La mise en place rapide d'une commission d'enquête pour déterminer et situer les responsabilités dans les violences qui ont entraîné des décès et des blessés les 10, 11 et 12 juillet 2020, ainsi que les destructions de biens publics et privés. La mise en place d'un comité de suivi de toutes les mesures de surprise, la mise en place par la CDAO d'un régime de sanctions contre ceux qui poseront des actes contraires au processus de normalisation de cette crise, étant entendu que l'ensemble des décisions et mesures ci-dessus devront être mises en œuvre au plus tard le 31 juillet 2020.
Dans la capitale malienne, ce sommet extraordinaire de la CDAO était suivi au niveau des états-majors des partis politiques. Jakarija Konaté de la majorité présidentielle.
Les propositions faites par la CDAO, à mon avis, prennent en compte toutes les préoccupations et des protagonistes. Le gouvernement d'union nationale a été demandé par la CDAO. Sinon, les recommandations de ce sommet vont aider certainement notre pays enfin à trouver la solution à tous nos problèmes, à toutes nos crises.
Issa Kaoudjim, coordinateur de la CEMAS, membre du M5-RFP.
Il ramène ce combat à une tentative de projet islamique ou que sais-je encore. Nous pensons que cette diversion ne vient de conforter le peuple du Mali et qu'il ne peut pas marcher pour deux raisons. La première raison, nous sommes tous d'accord de rester dans la Constitution. Nous sommes tous d'accord qu'il faut préserver le caractère démocratique et républicain laïque de notre pays. Mais nous sommes tous d'accord que le problème du Mali, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et la solution est endogène.
Conformément à la volonté des chefs d'État de la CDAO, hier nuit, un gouvernement restreint de 6 membres a été mis en place. Maïga Kamissa Camara, secrétaire général de la présidente de la République du Mali.
Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de division Ibrahima Dairou Dembélé, ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, M. Boubacar Alphaba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Bemba Moussa Keïta, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Maître Kassoum Tapo, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Tcheblin Dramé, ministre de l'Économie et des Finances, M. Abdoulaye Dafé.
Hier nuit, le M5-RFP a tenu une réunion de son comité stratégique. Selon Shogel Kokala Maïga, les recommandations formulées par les chefs d'État de la CDAO ne rencontrent pas les préoccupations des Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, c'est devenu la tradition. Chaque année, les populations de la banlieue dakaroise souffrent des méfaits de l'hivernage. Cette semaine, avec les premières pluies, plusieurs familles sont une nouvelle fois sous les eaux. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué.
Une route impraticable, des maisons sous les eaux, un plan d'assainissement inexistant. Nous sommes à Warouaï, un quartier oublié dans la lointaine banlieue dakaroise. Ici, les maux sont nombreux, surtout en cette période d'hivernage où les familles sont plus que jamais vulnérables à cause des inondations. Astoutiam, l'une des premières habitantes de Warouaï, raconte le calvaire qu'ils vivent à chaque saison des pluies.
On est très fatigués et dès que le ciel devient orageux, on meurt d'inquiétude parce qu'on pense automatiquement aux inondations. Et nos enfants sont très fatigués quand la pluie tombe car on perd tous nos bagages. On ne ressemble plus à des personnes normales. On dirait qu'on n'est même pas des citoyens. On a besoin d'aide. Les eaux stagnantes sont vraiment dangereuses et nos enfants traînent des maladies à cause de cela. Ils comblent dans tout ça, c'est qu'on ne voit plus personne pour nous aider. Les autorités sont fantomatiques.
Les familles ne sont pas les seules à subir les affres des inondations. Dans les édifices publics et les lieux de commerce de la banlieue, usagers et professionnels se disent laissés à eux-mêmes. Mohamed Si, vendeur au marché de Pékin, souligne que cette situation est un risque sanitaire supplémentaire au moment où leurs enfants doivent reprendre les cours en pleine pandémie de la COVID-19.
Il y a beaucoup de zones inondées qui deviennent de surcroît des impasses car personne ne peut y circuler. Il y a les marchés qui profitent de la pluie pour ouvrir leurs fosses et évacuer les eaux usées. Tout cela, combiné au coronavirus, rend la situation critique. L'eau est partout dans les rues. Comme vous le voyez, c'est très difficile de circuler, même pour les élèves qui doivent rejoindre les collèges. Le collège Pékin Est, par exemple, est inaccessible à cause des eaux de pluie. Vous comprenez bien que dans ce cadre qui figure, aucune mesure ne peut être respectée.
Comment ça accomplir? Malgré leurs nombreuses annonces, les autorités sont désavouées par les populations. Pape Cissé affirme que les politiques ne joignent pas souvent l'acte à la parole afin de régler définitivement le problème des inondations.
La situation ici est très difficile et le plus inquiétant, c'est qu'on ne voit aucune autorité essayer de nous soutenir. Toutes les rues sont inondées alors que le ciel vient juste d'ouvrir ses vannes. La situation est plus que critique. Nous lançons un appel à tous les bienfaiteurs pour nous épauler, ne serait-ce que pour évacuer les eaux qui stagnent encore, car on est très fatigué et on ne peut pas se fier à la promesse des autorités qui ne font que nous berner.
À Dakar et un peu partout au Sénégal, les populations souffrent toujours des inondations malgré les dizaines de milliards engloutis dans des plans pour lutter contre cela. C'est d'ailleurs pour cette raison que le directeur de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, a invité les plus hautes autorités à revoir le code de l'assainissement, le code de l'environnement et le code de l'urbanisme pour arriver à trouver des solutions durables sur toute l'étendue du territoire national. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Cette semaine, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ouvrent leurs frontières aériennes après plus de 5 mois de fermeture. C'est le cas par exemple du Mali ou du Burkina Faso, où le gouvernement a annoncé la reprise du trafic aérien à partir du 1er août. À Ouagadougou, les habitants sont partagés entre soulagement et crainte d'une propagation accélérée du coronavirus. Réaction recueillie dans les rues de Ouagadougou par notre correspondant Kader Traoré.
La question, je pense que c'est en toute logique que le Burkina donc s'inscrit dans cet agenda pour ne pas rester en marge et suivre un peu cette dynamique au niveau de la CEDEAO qui va donc permettre donc de relancer l'économie au niveau des différents pays. Je pense que le gouvernement doit s'employer à maintenir les mesures sanitaires prises depuis mars, sinon même renforcer et faire en sorte que, en tout cas, les choses soient respectées à la lettre avec un dispositif en termes de ressources humaines bien solide et bien relevé.
Sommet ABL, c'est une chose à saluer. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Et surtout pour des pays moins développés comme le nôtre, il nous faut beaucoup ouvrir les frontières pour permettre à notre économie de se relancer, permettre aussi à nos parents, à nos compatriotes qui ont été longtemps coupés du reste de leur famille, puissent regagner le bercail. Sur le plan sanitaire, il faudra que le gouvernement prenne toutes les précautions nécessaires qu'il faut, établir un protocole sanitaire très strict afin que nous puissions éviter des nouvelles contaminations. On ne voudrait pas que la seconde fois, on puisse revivre ce malheur.
L'ouverture des frontières, l'espace aérien est d'une manière générale un grand dilemme. Car pour un pays dont l'économie était déjà touchée par des défis d'actualité, notamment sécuritaires, garder clos ses frontières pourrait davantage être asphyxiant. Toutefois, il me semble paradoxal d'envisager l'ouverture de l'espace aérien quand, à sa fermeture, on avait moins de cas qu'aujourd'hui. Sans oublier que c'est par l'aéroport que le virus a fait son entrée sur notre territoire. Je me dis que le gouvernement a bien évalué la situation qui prévaut, tant au niveau national qu'international, et pris toutes les mesures pour la protection de la vie de la nation. La Fondation Bill et Melinda Gates ont félicité le gouvernement pour sa gestion de la pandémie. Et tous les citoyens, je pense, en étaient très fiers.
Abdourahmane Dia avec vous, cette semaine dans Washington Forum. En Afrique, comment relancer l'économie durement touchée par la pandémie de COVID-19? Les dirigeants de l'Union européenne ont récemment conclu un accord sur un plan de relance après de longues et difficiles négociations. Quelques 750 milliards d'euros seront mobilisés pour aider l'Europe à redynamiser son économie post-Covid. Mais en Afrique, on note une absence de réponse coordonnée. Qu'est-ce qui explique ce manque de réponse à l'échelle régionale ou continentale? L'annulation de la dette est-elle la solution? Rendez-vous jeudi 30 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Congo-Brazzaville, face à la propagation de la pandémie de COVID-19, les autorités qui avaient pourtant entamé un déconfinement annoncent maintenant des mesures correctives. L'état d'urgence et le couvre-feu sont maintenus alors que la réouverture du trafic aérien international est projetée au 20 août prochain, si la situation s'améliore. Des détails avec notre correspondant Arsène Séverin.
Parmi les mesures que le gouvernement a retenues pour le renforcement de la lutte contre la COVID-19, il y a le maintien du couvre-feu qui commence désormais à 20h et non plus à partir de 22h. Les marchés n'ouvriront plus que 4 jours dans la semaine au lieu de 5. Thierry Mungala, le ministre de la Communication, fournit des explications.
Un relâchement général, tant de la part des populations que de l'ensemble des acteurs impliqués dans le combat contre cette redoutable pandémie. Ce constat oblige donc les pouvoirs publics à prendre des mesures correctives, valant reprise en main de l'ensemble de notre riposte nationale contre la pandémie.
Il y a un mois, lorsque le gouvernement annonçait le deuxième palier de déconfinement, le pays ne comptait que quelques 880 cas. Aujourd'hui, ce nombre a plus que triplé, dépassant les 3100 cas. Selon le rapport de la Task Force de gestion de cette pandémie, la croissance économique est par terre, moins de 40%. Elle recommande que le gouvernement trouve rapidement de l'argent pour payer la dette intérieure et soutenir les petites entreprises en faillite. Analysant cette situation, l'économiste Hassan Bouzir met en cause l'effet des mesures prises par les autorités.
Ces mesures vont de plus en plus asphyxier l'économie et engendrer des dégâts difficiles à surmonter sur le plan microéconomique. Les entreprises vont continuer à licencier et à fermer les portes, le secteur informel va craquer et la consommation va plonger au point où les petits commerçants risquent de tomber tous en faillite. Il faut donc apprendre à vivre avec la COVID-19. Pour cela, ne pas fermer les marchés domaniaux, mais procéder à leur désinfection chaque nuit par exemple.
Malgré leur peur face à la COVID-19, plusieurs Brazzavillois réagissent au maintien du couvre-feu et à la fermeture des marchés domaniaux.
3 jours sans qu'il y ait marché me dérangera un petit peu parce qu'il y a des aliments que je dois acheter de manière quotidienne.
Si les marchés ne sont pas désinfectés et si la distanciation physique n'est pas respectée, tout cela sera vain.
Les gens ont pris déjà une certaine habitude autour de 22 heures. Donc là, ramener ça à 20 heures, il doit falloir que les gens s'habituent encore à ce rythme-là.
Pourquoi ne pas faire des reportages à visage découvert des personnes qui en ont été atteintes ou qui le sont encore ? Cela peut-être permettrait que les populations prennent davantage conscience de la situation.
Ces nouvelles mesures prennent effet à partir du 30 juillet et l'état d'urgence sanitaire a de nouveau été prorogé de 20 jours. Arsène Séverin, Brazzaville, VO Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Edressa Sedoudia et de Michel Joseph. À la mise en onde, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.